dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans le cadre de l'Amérique et vous, édition de ce vendredi 1er novembre 2024. Vous êtes sur VO Afrique que nous émettons depuis Washington DC, ici même aux États-Unis. Et ce soir, nous parlons de l'élection présidentielle du 5 novembre, ici même aux États-Unis. Pas moins de 57 millions d'électeurs américains ont déjà voté. C'est l'équivalent d'un tiers du total des votants de l'élection de 2020 qui se sont déjà exprimés. En Géorgie, par exemple, plus de 3 millions de personnes ont déjà voté, soit 45% des électeurs inscrits, un record selon le secrétaire d'État républicain. Cette exceptionnelle participation anticipée pour l'élection américaine alimente les espoirs des deux camps, même si elle reste difficile à interpréter. Alors que les enquêtes donnent toujours les deux candidats au coude à coude à quatre jours du scrutin, démocrates comme républicains ne cessent d'appeler les électeurs à se rendre aux urnes le plus rapidement possible. En meeting mercredi soir, le candidat républicain Donald Trump s'est félicité du record historique en matière de vote anticipé et de la poussée des républicains dans ce contingent. Du côté des démocrates, le président Joe Biden, Tim Walz, le colistier de Kamala Harris et l'ancien président Barack Obama ont mis en scène leur vote anticipé, appelant les électeurs à faire de même. Élections américaines et perspectives, voilà qui constitue le principal axe de notre discussion ce soir. Pour discuter de tout cela, permettez-moi d'introduire nos invités de ce soir. Madame Aboussana Miki Bondo est avec nous depuis Portland, dans l'Oregon. Vous êtes membre du conseil d'administration du district 1 de l'école publique de Portland. Vous êtes citoyenne américaine originaire de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Miki Bondo, bonsoir.
Bonsoir, bien, merci bien, mon frère. Je voudrais corriger un tout petit peu. Je ne suis pas de Portland, Oregon, de l'Ouest, mais je suis plutôt à l'Est, donc Portland, Maine.
OK, d'accord.
À l'Est des États-Unis.
C'est entendu. Et c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. L'honorable Cabral Libby est en direct avec nous depuis l'État du Maryland, ici aux États-Unis. Journaliste, analyste politique, député à l'Assemblée nationale du Cameroun. Vous avez aussi été candidat à la dernière élection présidentielle de 2018. Et vous avez été classé troisième derrière Maurice Kamto et Paul Biya. Vous venez d'ailleurs de publier un livre intitulé « Ce que j'ai vu », vous nous direz de quoi il s'agit, « Manifeste de la rupture et du progrès ». Cabral Libby, bonsoir.
Bonsoir à vous, Monsieur Lindon. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent, ainsi qu'aux copanélistes. Il faut peut-être juste ajouter que je dirige également un parti politique depuis 2019 qui s'appelle Parti Camerounais pour la Réconciliation Nationale.
La précision en vaut la peine. Merci de l'honneur que vous nous faites en étant là ce soir. L'historien et analyste politique Mohamed Mbodje est également avec nous ce soir. Il est professeur d'histoire à Manhattanville College à New York. Mohamed Mbodje, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, je vais commencer avec vous. Merci déjà pour votre fidélité à ce programme, Monsieur Mbodje. Ravi de vous avoir donc dans cette émission. Pas moins de 57 millions d'Américains, on le disait, ont donc déjà voté. Qu'est-ce qui explique cet engouement, à votre avis?
D'une part, la technologie, les gens d'il y a 10 ans ne fonctionnaient pas comme nous fonctionnons aujourd'hui, et nous sommes les mêmes d'ailleurs, il y a 20 ans, 50 ans, donc il y a des progrès, et en particulier l'une des choses qu'on pouvait remarquer le jour des élections, surtout présidentielles aux États-Unis, c'était les queues dans les bureaux de vote, des queues longues qui pouvaient décourager certains qui abandonnaient avant de pouvoir voter. Certains étaient découragés même et ne se présentaient pas pour voter. Donc il y avait toute une sorte de litanie contre donc ces longues queues pour voter. Et maintenant, avec les progrès de l'électronique, avec aussi évidemment la vote politique, de mettre fin à ces queues des gens qui attendent pour voter. Donc, on a élargi le vote par correspondance, qui d'ailleurs existait auparavant pour les militaires et les personnels diplomatiques déployés à l'extérieur. Bon, on l'a plus ou moins adapté et étendu et trouvé des moyens pour que les gens ne soient pas obligés d'aller se mettre dans la queue le jour des élections. Et disons, c'est facile. La structure, l'infrastructure électronique permet de le faire, et donc pourquoi pas.
Alors, Mickey Bondo, parlons de cette élection. C'est la deuxième fois dans l'histoire récente des États-Unis qu'une femme est candidate à la présidentielle. En 2016, on s'en souvient, Hillary Clinton avait déjà tenté le coup. Elle avait emporté le vote populaire, mais perdu l'élection du fait du vote des grands électeurs. Comment voyez-vous les choses cette fois-ci avec Kamala Harris?
Oui, merci beaucoup pour la parole. Et voilà, c'est par rapport aux valeurs. Et je me dis, l'augmentation du nombre des femmes, je crois, par rapport à 2016, comme vous venez de le dire, est tellement et beaucoup plus élevée cette fois-ci. Donc, d'après les statistiques, on vient de voir que ce sont les femmes avec le early voting, ce sont elles qui sont vraiment levées pour aller voter le plus. Et c'est par rapport à la politique d'action des candidats qui sont sur le ballot. Qu'est-ce que la femme en tant que soi, peu importe de sa nationalité, de ses origines, se retrouve dans la politique d'action des acteurs politiques qui sont sur le ballot? Donc c'est ce qui fait que les femmes sont décidées à vraiment à sortir et pouvoir faire valoir leur voix pour dire que assez c'est assez, nous avons des politiques qui ne vont pas à l'encontre des valeurs de la femme et de la famille, nous devons absolument valoriser nos voix afin qu'il y ait un changement dans ce pays et que les femmes puissent être valorisées au premier plan.
Honorable Cabral Libi, on le disait en introduction de cette émission, vous êtes un homme politique qui avait été candidat à la présidentielle de 2018 au Cameroun. Quand vous regardez comment la politique se fait aux États-Unis en termes d'enthousiasme, de financement, de publicité, de campagne, quel enseignement vous tirez?
L'enseignement que nous tirons, c'est que tous les moyens sont mis en jeu pour mobiliser l'électorat, pour intéresser l'électorat. Et tout tourne autour de la participation à la vérité. Ce qui est souhaité par tous les candidats, c'est qu'il y ait le plus de participation possible. Mais c'est effectivement dans ce type d'optique qu'un pays comme le Cameroun s'est inscrit effectivement depuis 2018. C'est que, comme le disait M. Mbodj tout à l'heure, c'est dans l'air du temps. On utilise la télévision, on utilise les technologies. Vous rappeliez fort à propos que moi j'avais été candidat en 2018, j'étais le plus jeune candidat à l'époque, à 38 ans. Enfin, et on a tout le monde à noter, par exemple, l'enthousiasme de la part de la jeunesse camerounaise. Mais évidemment, je ne suis sorti que 3e sur 9 candidats, c'est pas fameux, mais c'est resté quand même inscrit dans les annales du Cameroun comme étant un moment de bascule, un moment de déclic. Donc, même en rapport avec ce que vous disiez tout à l'heure avec le chiffre de participants, déjà en ce moment-ci, d'électeurs aux États-Unis, ben, je crois que c'est ça l'enjeu principal et c'est ça que je retiens pour revenir à votre question. C'est la participation. Quand les citoyens sont intéressés, ben, ils participent. Quand ils ne sont plus intéressés, quand ils se sentent délaissés, quand ils se sentent éloignés des enjeux électoraux, ils ne participent pas. C'est pour cela que, bien que nous soyons encore à des années-lumière, en tout cas vu du Cameroun, avec ce qui peut se passer ici, pour ne prendre que le cas du Cameroun, on pourrait relativiser évidemment ce que je dis du Cameroun lorsqu'on a vu ce qui s'est passé au Sénégal déjà l'an dernier avec le taux de participation et le basculement qu'il y a eu. Donc c'est pour cela que, vous rappeliez tout à l'heure que j'étais auteur d'un ouvrage, c'est pour ça que nous écrivons des livres, nous vendons auprès de l'électorat notre vision de la société, comment nous allons créer des emplois, comment nous allons rénover l'État, comment nous allons construire notre identité, notre souveraineté, comment nous allons venir à bout de la corruption. C'est toutes ces choses-là qui font que ben, le peuple se sent intéressé, le peuple sent qu'il a entre ses mains la décision, ben, il participe. Moi, j'aime bien, pour finir, le slogan que je vois ici, « When we vote, we win ». Lorsque le peuple vote, il gagne forcément, quel que soit celui des candidats qui est vainqueur derrière, puisque de toute façon c'est cyclique, 4 ans après ils pourront le changer, mais quand le peuple vote, ben il gagne. Voilà moi ce que je retiens comme leçon principalement.
Alors Mohamed Mbodj, quand le peuple vote, il gagne, mais il y a comme un goût d'inachevé. Hein. Ici aux États-Unis, on parlait d'Hillary Clinton en 2016 qui a gagné le vote populaire, mais qui en fin de compte a perdu l'élection. On entend parler des États clés. Pour gagner une élection aux États-Unis, il faut gagner ces États clés. Pour ceux de nos auditeurs qui ne comprennent pas trop bien ce système, de quoi s'agit-il en fait?
Alors, il s'agit de ce qu'on peut appeler un système des grands électeurs, c'est-à-dire que dans chaque État, proportionnellement à sa population, on envoie un nombre de représentants qui vont voter pour le président. Donc, ce n'est pas un suffrage universel qui va décider le président, c'est plutôt un suffrage universel pour élire à la dimension de l'État des délégués, c'est-à-dire leur titre, délégué, et ces délégués vont aller dans une convention et vont voter dans le sens où les électeurs de leur État leur ont indiqué qu'il faut voter. Maintenant, ce qui amène cette distorsion entre ce qu'on peut appeler le vote populaire et la manière dont ces grands électeurs peuvent voter, c'est que tout d'abord, dans beaucoup de ces États, surtout les petits États, surtout les États ruraux, donc il y aura une marée rouge, donc une marée de républicains qui vont être élus et qui vont faire en sorte qu'ils représentent leurs États. Et dans ce cadre-là, le nombre de populations des très grands États comme les New York, etc., est certes prise en considération, mais devant l'avalanche des petits États ruraux du Sud, ou petits ou grands d'ailleurs, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais devant l'avalanche de ces États qui sont souvent moins puissants, moins nombreux que les États qui votent bleu, qui votent démocrate, c'est là où la décision se fait. Et donc, c'est pourquoi on peut se retrouver avec Hillary Clinton, avoir un plus grand nombre de votes et ne pas être élu. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois. Al Gore avait un plus grand nombre de votes. Si on comptait tous les gens qui avaient voté, pour les gens qui allaient voter au niveau des grands électeurs, mais n'empêche que c'était George Bush Jr. qui avait passé. Donc, dans l'histoire américaine, il y a cette façon de faire en sorte qu'en réalité, le vote des petits États ne soit pas, disons, passé pour perte de compte, et qu'en particulier, donc, il faut faire en sorte que tous les États puissent voter. Voilà.
D'accord. Mickey Bondo, qu'est-ce qui vous a le plus marqué depuis que cette campagne présidentielle a commencé, aussi bien du côté de Donald Trump que de Kamala Harris?
Voilà, merci. Eh bien, pour moi, par rapport à ce que je vois, c'est par rapport à leur politique d'action sur le terrain. Qu'est-ce qu'ils sont en train de proposer comme agenda? Et je crois ce qui est vraiment en train de me donner beaucoup d'intérêt, c'est sur l'immigration. Étant donné que je suis congolaise d'origine et nous faisons face à une forte augmentation de l'immigration au sein de notre communauté, au sein des États, qui n'arrivent vraiment pas à prendre une bonne prise en charge. Donc c'est ce qui est vraiment en train de m'intéresser, de voir qui des deux est en train vraiment de donner la meilleure projection au fait d'une politique sur l'immigration et surtout aussi sur l'éducation et le lendemain des femmes. Donc j'ai vu quand même une certaine balance parce que bon, j'ai déjà une tendance déjà politique de moi-même qui se fait que j'ai déjà un penchant sur un candidat que je suis en train tout justement de soutenir. Mais par rapport à cette politique, je voudrais vraiment essayer de voir quelle est vraiment la part de nous les immigrants dans ce qui se passe dans les États-Unis. C'est-à-dire que quelle est la représentation de nous en tant que venant de l'extérieur, nous apportons comme une force majeure dans l'économie des États-Unis. Donc ça, c'est vraiment ce que je suis en train de suivre de près. Et j'ai des discussions vraiment très ouvertes avec d'autres collègues et d'autres électeurs qui sont en train d'hésiter pour le moment parce qu'ils n'arrivent pas vraiment à être convaincus, que ce soit du côté de Trump et surtout au niveau de Kamala Harris, de leur politique sur l'immigration et sur l'économie. Je voudrais ouvrir un peu la parenthèse. C'est parce que Trump a déjà été élu une fois, donc il est un beaucoup plus visible et connu. Mais par rapport à Kamala Harris, que les gens sont toujours en train de vouloir découvrir, c'est ce qui donne un peu d'hésitation sur le terrain de la majorité des électeurs qui vont se pencher sur sa politique d'action.
D'accord. Alors, honorable Cabral Libi, ça doit être difficile de mener une campagne présidentielle en termes de déplacements, de discours, de meetings, de financements, de réunions avec les équipes. Racontez-nous votre expérience, puisqu'on le disait, vous avez été candidat à la présidentielle de 2018 au Cameroun. On vous a vu souvent dans des campagnes, dans des roues, dans des villages, avec des routes pas aussi bonnes qu'ici aux États-Unis.
Évidemment, alors, une campagne présidentielle, c'est par nature très dispendieux. Et il y a deux types de dépenses que vous faites fondamentalement. Il y a une débauche d'énergie physique d'abord, parce qu'il faut aller vers les gens, il faut aller toucher les gens, il faut aller vous faire toucher par les gens, je dis physiquement. Donc cela vous impose donc évidemment de parcourir votre circonscription électorale, qui en l'occurrence est le pays en ce moment-là, de part en part avec vos équipes, ce qui est physiquement éprouvant, intellectuellement éprouvant. Puis il y a des dépenses donc matérielles, parce que la soutenabilité de ces déplacements, la soutenabilité de la propagande politique, la soutenabilité de la communication, et tout cela demande des moyens financiers considérables. Ben évidemment, nous sommes, une fois encore, j'ai envie de dire, à une grosse distance de ce qui peut se passer dans un pays comme les États-Unis. Pour faire une analogie toute simple, dans un pays comme le Cameroun, depuis 1992, qui marque l'année du retour au multipartisme, l'élection présidentielle est toujours convoquée en saison pluvieuse. Donc au mois de septembre, au mois d'octobre, cela est fait à dessein parce que les routes sont impraticables, il y a des parties du pays qui sont inondées, et ce qui se passe, c'est que généralement le candidat du pouvoir, lui, il va battre campagne, quand je dis lui, enfin, pour ceux qui connaissent le Cameroun, lui-même ne bat pas campagne depuis très longtemps, ce sont ses équipes qui le font à sa place, mais ils utilisent les voitures administratives, ils privatisent les hors-bords dans les parties inondées, donc mais seul cela participe en fait de ce que nous appelons au Cameroun la sophistication de la fraude. Mais pour revenir notamment à la soutenabilité financière, et là encore on peut faire une analogie avec ce qui se fait ici, vous avez vu, dès qu'on a annoncé la campagne de Mme Kamala Harris, de la vice-présidente, immédiatement le lendemain on a annoncé une levée de fonds extraordinaire. Et là encore, on revient au cœur de la question de la participation, ou si vous voulez, de la contribution. Dans des pays comme les nôtres, notamment le pays, puisque je parle du Cameroun, mais on est vraiment à des années-lumière. Puisque nous sommes gouvernés par le même parti politique qui a patrimonialisé l'État depuis la fin des années 50, début des années 60, ils ont appris aux populations qu'en fait, c'est eux qui leur donnent de l'argent, ils distribuent du pain, ils distribuent de l'argent, ils distribuent des t-shirts, ainsi de suite. Ce qui fait que dans nos latitudes ou sous nos latitudes, il n'y a pas une réelle culture de la participation financière, de la contribution. Ce qui fait qu'on est dans un jeu généralement très déséquilibré avec les candidats du pouvoir qui utilisent les fonds publics et leurs opposants qui, eux, doivent se battre comme ils peuvent. D'accord. Et je vous donne un dernier détail. Figurez-vous que dans un pays comme le Cameroun, on vous demande de payer la caution à la présidentielle de 30 millions de francs, mais vous recevez comme fonds de campagne la moitié.
Voilà. En tout cas, Mohamed Bouj, si Donald Trump est élu, ce sera un comeback extraordinaire. Qu'est-ce qui serait dans cette hypothèse pourrait être retenu comme enseignement, sachant tous les obstacles qu'il aura alors surmontés, y compris des affaires judiciaires?
Ça veut dire qu'il y a un électorat qui lui est resté fidèle. Cela veut dire qu'il a les moyens de battre campagne. Cela veut dire qu'il a une infrastructure du Parti républicain qui lui a servi. Donc il y a autant de choses qui ne sont pas perdues. Ce n'est pas au lendemain des élections où tout le monde se démobilise et on range dans les cartons tout ce qu'on a fait. Ce pays est en campagne électorale permanente. que ce soit pour le Congrès, que ce soit pour le président, que ce soit pour les districts des écoles, que ce soit. Donc, il y a, et ces infrastructures sont politisées, j'oubliais même les juges, ces infrastructures sont politisées et donc sont en permanence. Il y a des outils en permanence. Il y a le battage médiatique, bien entendu. Donc, Trump lui-même est bien fourni. Il fait des levées de fonds. Il a des amis puissants et très riches qui participent. Donc, je ne pense pas que ce soit une surprise. La surprise, c'est plutôt pourquoi les gens élisent quelqu'un qui a clairement annoncé, disons, ses intentions
dès le départ.
Une liste de ses ennemis, etc., etc. C'est un peu ça qui va être la surprise, mais pas techniquement, de le faire élire, il peut le faire, il a les moyens et le Parti républicain s'est mobilisé pour lui.
Alors, Mickey Bondo, à contrario, si Kamala Harris est élue, ce sera la première femme présidente des États-Unis. Qu'est-ce que cela représente dans l'histoire du pays et même pour les générations futures de femmes en politique?
De l'espoir. Ça représente de l'espoir et cela représente qu'effectivement les États-Unis sont devenus inclusifs et ils ont accepté cette acceptance qu'une personne de couleur et surtout du genre féminin puisse être au devant de la table de décision et surtout au niveau de la grande république comme les États-Unis d'Amérique. Donc cela donne l'espoir et surtout pour la jeunesse montante qui est maintenant en train de pouvoir s'ingérer dans la politique de la bonne gouvernance. Donc ce sera vraiment une explosion. Donc cet espoir, tout justement, si Kamala est élue la première dame dans l'histoire des États-Unis, change automatiquement le narratif des États-Unis. Et cela nous encourage, nous, les immigrants et les enfants qui viennent, qui sont nés ici, à pouvoir dire que tout est possible. C'est-à-dire que nous allons continuer à se mobiliser et à continuer à valoriser les droits de la femme, à être sur les postes de décision et pouvoir, d'ensemble, augmenter le pourcentage des femmes qui sont élues, qui puissent prendre des décisions et le changement de politique, surtout les policies. Alors, qui gouvernent les États et l'éducation pour l'émancipation du genre féminin.
On arrive au terme de cette émission. Kabra Libi, je vais vous passer la parole. Vous avez suivi l'actualité politique américaine. Si Kamala Harris a été finalement celle qui va représenter le Parti démocrate, c'était après la démission de Joe Biden du fait de son âge. Si rien ne change, il devrait y avoir une élection présidentielle au Cameroun en 2025. D'abord, est-ce que vous serez candidat? Si oui, avec quel parti et quel est votre plan? Et est-ce que le président Biya, déjà très âgé, sera candidat? En quelques mots, si vous pouvez.
Avec certitude, je peux parler de moi-même. J'ai effectivement la ferme intention d'être candidat une fois de plus en 2025. Ce sera avec le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, puisqu'au Cameroun, seuls les partis politiques ayant des élus peuvent prétendre à cela. Il y en a 18 au Cameroun. Le PCRN en fait partie, puisqu'en 2020, nous avons gagné des sièges de députés et des communes. Avec quel projet? Vous l'avez dit vous-même à l'entame. Nous avons publié au mois d'août dernier notre projet politique intitulé « Ce que j'ai vu, manifeste de la rupture et du progrès ». Donc, nous travaillons aujourd'hui à cela. Sur le président Biya, vous l'avez dit vous-même, il a 92 ans. Il y a déjà un certain nombre de ses ministres qui l'appellent à être candidat une fois de plus ou de trop. Je ne saurais vous en dire davantage. Nous faisons confiance au peuple camerounais. Aujourd'hui, le Cameroun a soif de changement. Les Camerounais se réveillent. Plus de 8 millions sont déjà inscrits sur les listes électorales. Tout porte à croire que 2025 réserve des surprises pour le Cameroun. Après les États-Unis, portez-y vos regards.
Tout à fait. Alors, 10 secondes pour chacun pour terminer. Madame Mickey Bondo, votre mot de fin?
En tout cas, moi, je voudrais vraiment vous remercier pour cette plateforme qui a permis de pouvoir élever ma voix en tant qu'immigrante et en tant que femme de couleur et aussi officielle élue, de pouvoir voir que tout est possible et que l'élection sera une élection très décisive, de voir la lancée des États-Unis dans les années à venir et que nous avons tous une voix dans ce processus électoral et dans ce civic engagement. Merci beaucoup.
Mohamed Bo, j'ai 10 secondes vraiment.
Donc, ce sera l'occasion de voir si la coalition entre les femmes, les gens les plus éduqués et les minorités pour faire la différence dans ce pays. Ils l'ont fait une fois avec Obama.
Merci. Merci pour cette émission produite par Firmin Kouyaouida.